Musique du monde. Sur RFI. Laurence Alloire. Taguim Fatra.
Je suis d'une génération qui, et je le crois toujours, que la musique doit pouvoir être intelligente et pas forcément de la musique pour endormir. Elle peut contester, elle peut... Je suis d'une génération qui croyait que la musique pouvait changer le monde. Au moins changer, ou refléter le monde dans lequel je vivais et mes opinions. Et pas simplement être la variété, quoi.
Le Ruby Tour est le nom de la tournée qui célèbre les 40 ans d'un groupe de rock anglais mythique, The Stranglers. Une tournée qui passera par Paris le 7 avril à l'Olympia, et on en sera. Pour les amoureux d'un rock exigeant, le coffret 40 ans avec 11 CD disponibles sous le nom de Giants and Germs. Né à Guildford, en Angleterre en 1974, les Stranglers naissent autour du chanteur britannique diplômé en biochimie Hugh Cornwell et du bassiste français Jean-Jacques Burnell, aujourd'hui sixième dan de karaté. Affilié à la scène punk, Burnell qualifie de boys band, les Stranglers ont toujours tracé un chemin hors sentier battu, militant, homme en noir, à part. Les années passent, les Stranglers s'alignent quelques tubes plutôt pop, puis disparaissent de la circulation. Toujours à bord du vaisseau, Jean-Jacques Burnell, sans Hugh Cornwell, revient sur le devant de la scène pour souffler les 40 bougies d'un gâteau plutôt musclé. Notre premier invité, donc, Jean-Jacques Burnell. Jacques Burnell, bon anniversaire, 40 ans, c'était pas tant.
Oui, je ne les fais pas. Je fais 60 ans plutôt.
Il y a très peu de groupes qui arrivent à tenir aussi longtemps.
C'est leur problème. Nous, on s'entend bien. Et on répartit tout également, donc on a évité ces problèmes qui sont plutôt stupides, c'est-à-dire des problèmes de fric ou d'ego. Donc tout se passe bien entre nous.
Le dernier album qui est sorti, Giants, il y a une chanson qui est un tango. Et le tango, j'ai l'impression que ça vous ramène à vos premières heures d'émoi musical. Vous aviez un papa qui adorait la musique sud-américaine de mémoire.
Oui, oui, absolument, oui. Oh, tu as fait des bonnes recherches, là. Il était cuistot, chef, sur la ligne French Line. Dans les années 30, Le Havre Sud-Amérique, oui, voilà. Il est tombé amoureux du tango et la musique sud-américaine. Et dès qu'il pouvait me forcer à apprendre la guitare ou me payer des leçons, il l'a fait pour que je puisse lui rejouer de la musique espagnole et tango et tout ça. Ça m'a bien servi d'ailleurs. Bien que je suis bassiste dans le Stranglers, ça m'a donné des lignes mélodiques et des idées un peu un peu plus ouverte.
Précisément. Vous commencez la guitare à l'âge de 12 ans. C'est votre père qui vous donne une guitare parce qu'il est fou de musique sud-américaine. Vous prenez des cours, il vous paye des cours. Donc, vous prenez des cours de musique classique.
Oui, de musique classique, oui. Ah. C'était toute la période en Angleterre, dans les années 60, où il y avait le blues boom. Alors, les jeunes petits middle class kids, les Stones, ou tous ces guitaristes de blues qui re-exportaient le blues noir, ils re-exportaient ça aux États-Unis et avaient du succès chez les Blancs qui découvraient leur musique américaine, mais par les Anglais, qui réimportaient ça. Il y avait Peter Green, Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, tous dans le même endroit où j'habitais, dans le Surrey, à l'époque. Mes parents tenaient un restaurant dans le Surrey. J'ai vu ça dans des pubs. J'ai vu Fleetwood Mac devant 25 personnes avant leur tout premier disque. Donc, au même temps que je faisais la musique classique, j'étais imbu de cette culture qui explosait tout autour de moi en Angleterre.
Dans quel état d'esprit vous montez les Stranglers en 74? Sur quelle idée?
C'était juste une aventure. Nous étions trois à l'époque. On cherchait juste à jouer et trouver des points en commun. On ne se connaissait pas. Hugh et Jet, le guitariste à l'époque, et le batteur se connaissaient un peu. Ils jouaient ensemble déjà, mais moi je ne les connaissais pas. Je les ai rencontrés comme ça, par hasard. On allait trouver des points en commun et donc on a commencé à écrire. Et un an plus tard, Dave, le claviériste, est arrivé. Et lui, par contre, nous a donné une direction et un son. Parce qu'il y avait clavier, guitare, basse et batterie, ça collait bien. Et on s'entendait super bien, et puis pendant des années et des années, on était nous quatre.
Golden brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Les Stranglers ont vu le jour au milieu des années 70, en même temps que la scène punk. À la différence de ces gens-là, les Stranglers ne sont pas un groupe préfabriqué, né de la vision d'un Malcolm McLaren qui a monté de toutes pièces les Sex Pistols, par exemple. Jean-Jacques Burnel, chanteur et bassiste des Stranglers.
Ces groupes comme Joe Strummer, des Clash, il venait nous voir quand il était dans un groupe de rhythm and blues. Et les Sex Pistols et Chrissie Hynde, je me souviens, ils sont venus nous voir au début 76. Et on commençait à remarquer qu'il y avait des gens qui avaient des cheveux un peu plus courts et qui portaient des jaquettes de cuir comme nous et des jeans un peu plus serrés que nous et des bottes, des Doc Martens comme nous. Donc il y avait des points en commun et on jouait les mêmes genres de bar. Aussi, à la même période, nous avons été choisis sur tous les autres groupes à Londres à l'époque de faire première partie de Patti Smith et des Ramones. Donc on était un peu dans le courant à l'époque. On n'avait pas de Svengali comme Malcolm McLaren ou Bernie Rhodes, les gars qui ont créé les Clash et les Sex Pistols, qui à mon avis étaient des boys bands.
Jean-Jacques Burnel, pour fêter les 40 ans des Stranglers, il y a un coffret de 11 CD qui s'appelle Giants and Gems. Alors, de quoi est composé ce coffret? Il y a les 6 premiers albums et la suite.
Quand on nous a dit qu'ils allaient sortir les 6 premiers albums qui ont marqué leur temps quand même, parmi d'autres bien sûr, nous avons voulu faire le point de sortir Giants avec, parce que Giants, ça a été très bien reçu il y a 2 ans, et on voulait faire le point avec ça. Soniquement, c'est pas trop différent des premiers albums, donc on a fait le point et tout le monde est d'accord pour faire ça.
Alors, votre tournée s'appelle le Ruby Tour. En France, 40 ans de mariage, ça s'appelle les noces d'émeraude.
Ah oui.
On passe du rouge au vert, vous avez le droit. Vous êtes les Stranglers, vous avez tous les droits. Qu'est-ce que vous allez jouer sur scène? Un titre de chaque album pour faire plaisir à tout le monde?
Exactement. Il y a eu des albums qu'on a ignorés pendant des années, dont on n'était pas aussi fiers. Mais pour marquer l'anniversaire, on voulait faire le point et marquer les 40 ans en jouant au moins un morceau de chaque des 17 albums de studio.
Est-ce qu'il y a un album qui vous a plus touché qu'un autre? Est-ce qu'il y a un album qui représente quelque chose de vraiment important dans la carrière des Stranglers? Alors peut-être à l'époque originale, l'époque classique ou l'époque plus récente?
Ah oui, oui, moi je pense que ça arrive à tout le monde. La musique nous rappelle toujours des moments dans notre vie. Si on, je pense que pour la plupart des humains, à part ceux qui ne permettent pas la musique du tout.
Il y a un titre qui est très à part dans votre discographie, qui a une histoire. C'est un morceau de 7 minutes qui s'appelle La Folie.
Oui, La Folie. On a enregistré un disque. La maison de disques nous avait d'ailleurs... on avait sorti un disque qui s'appelait Les Men in Black, qui n'avait pas eu grand succès. Et c'était un album de concept. On préparait un autre disque qui suivait ça, avec un morceau La Folie dessus, mais un autre morceau Golden Brown qui a fait un succès mondial. Mais La Folie, c'était un fait divers sur un étudiant japonais qui était à Paris, qui était à la Sorbonne, qui était un peu obsédé par une certaine étudiante aussi, néerlandaise d'ailleurs, à la Sorbonne. J'avais lu ça, il avait mangé, ensuite il avait laissé des morceaux de cette fille dans le frigo, et le reste il avait découpé. Il avait jeté dans le bois de Boulogne, mais il avait été vu et ils ont trouvé cette valise, ils ont trouvé les restes de cette fille. Alors moi, j'ai lu ça, c'était quelle histoire, c'est fou, c'est une folie. Et donc j'ai écrit un peu ce que j'avais appris sur ce fait. Et plus tard, il y avait Photo Magazine, je crois, et Paris Match, qui ont reçu, je ne sais pas comment, des photos de la reconstitution de cette fille, du cadavre, des photos de police. Mais ils étaient publiés, et ça a été arrêté d'ailleurs, plusieurs heures plus tard, mais pas avant que certaines copies de ces photos soient dans le public, et je l'ai vu. C'était absolument horrifique et fou. Mais, à l'époque, le gars avait été arrêté, Issei Sagawa, et son père faisait partie d'un groupe de Japonais très haut, businessmen, hommes d'affaires, qui venaient en Europe pour parler de quotas Europe-Japon. Et je ne sais pas comment, je crois qu'il a été mis dans un asile en France pendant un an, ensuite il a été relâché, mis au Japon, ensuite maintenant il est en liberté et il a sa propre émission de télévision. Il est devenu une vedette. Il a tué, pas seulement tué quelqu'un, il a cannibalisé quelqu'un. Et maintenant, il en fait sa fortune. Ça, c'est la folie.
Ton véhicule n'a pas l'air d'avoir de passagers. Veux-tu me recevoir sans trop te déranger? Mes bottes ne feront pas trop d'écho dans ton couloir. Pas de bruit avec mes adieux. Pas pour nous les moments perdus, en attendant un incertain au revoir. Parce que j'ai la folie. Oui, j'ai la folie. Oui, c'est la folie.
Jean-Jacques Burnel, j'en viens à votre rapport avec la langue française. Vos parents sont normands. Vous êtes né à Londres. Votre famille s'est installée en Angleterre. Je me demandais si le fait d'avoir pratiqué le karaté comme un dingue, c'est parce qu'on vous cassait la gueule quand vous étiez petit à l'école.
J'ai découvert très jeune que les rapports de force, ça comptait dans le monde des jeunes gars, malheureusement. Il y avait un genre de xénophobie et de racisme, si je peux dire. J'ai passé des concours pour aller dans une école royale qui datait de 1552 avec un quadrangle et aussi avec j'avais le droit à être battu à la canne et puis dire merci à la personne qui me battait. Et puis c'était assez militariste et tout. À un moment, je me cassais la gueule parce que j'étais un Frenchie. Soi-disant, moi je voulais pas être Frenchie, je voulais juste être comme les autres. Mais mon nom ne cachait rien. Jean-Jacques, c'est pas un nom anglais. Et donc, je me faisais tabasser de temps en temps. Et une fois, j'ai perdu. Et j'ai attaqué deux gars qui m'ont attaqué à l'école devant les profs. Les profs ont arrêté ça. Ils ont dit à 4 heures après l'école, gants de boxe devant toute l'école. Et après ça, j'ai massacré ce gars qui avait 2 ans de plus que moi. Et puis après ça, ma vie à l'école était fantastique. J'étais traité bien. Alors j'ai réalisé qu'il fallait maintenir cette position pour avoir une vie de paix.
Est-ce que vous avez pu partir au Japon pour vous perfectionner
ou... Oui, j'y vais tous les ans d'ailleurs. Depuis 78, je suis maintenant professeur en 6e dan en Angleterre et je m'occupe de mes élèves.
Et vous avez été coach aussi pour l'équipe anglaise, oui, pour les championnats du monde à Annecy en 2004, c'est ça? C'est une double vie, hein, bassiste chez les Stranglers et karatéka 6e dan, prof en Angleterre. C'est, voilà. Il y avait un type qui était pilote, c'était pas un mec de Motorhead, un groupe de ce style-là?
Ah non, tu parles de Bruce Dickinson de Iron Maiden. Lui, il est pilote de ligne, et donc souvent il les emporte à leur concert. Oui, mais lui aussi, d'ailleurs, il était niveau olympique d'escrime.
C'est fascinant, ces doubles vies, parce que c'est l'excellence quand même dans des domaines très différents.
Mais je crois que c'est... Parfois dans la vie, on a des opportunités, il ne faut pas les ignorer. Quand on a une chance, il faut la prendre avec les deux mains, quand on a cette chance.
Est-ce qu'il y a une opportunité que vous aimeriez saisir? Vous avez déjà fait beaucoup de choses en matière de musique, en matière de sport, karaté, vous l'avez porté quand même assez haut niveau, en allant tous les ans au Japon, vous perfectionnez. Est-ce que votre carrière solo, que vous avez quand même démarré, vous avez fait 3 albums, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez travailler aussi sur la langue française? Vous avez bossé avec Jacques Dutronc, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là?
Pas consciemment. Les choses arrivent, il y a toujours une raison. Je connaissais Jacques Dutronc parce que j'avais ma culture française quand même, et quand j'avais 14-15 ans, Et moi, c'était fantastique. J'adorais ça et je jouais ça en Angleterre, en français. Et quelques années plus tard, il y a eu la demande par M. Dutronc si je voulais participer à un album. Et j'ai rencontré la personne et il m'a vraiment pas déçu. Il était égal à lui-même. J'ai trouvé absolument charmant et sympa. Et c'était un bon moment. Et on m'a même payé pour ça.
Donc, vous vous rendez compte.
Donc c'était win-win-win. Une ou deux fois, ou plusieurs fois d'ailleurs, on m'a demandé de participer à des productions. J'ai collaboré avec aussi une chanteuse qui s'appelle Dani, qui est adorable, absolument adorable. Hier soir, j'ai dîné avec Mirwes, qui était le guitariste de Taxi Girl et le producteur de Madonna. Et on va faire des choses ensemble. Alors, tu sais, je ne cherche pas, mais les choses arrivent et puis on accepte ou on n'accepte pas si on a le temps. Et c'est fantastique, ça enrichit la vie. Et en plus, j'apprends des choses. Je crois que j'apprends des choses toujours. C'est vraiment épanouissant.
Avant de perdre ta face et de m'éteindre comme un vieux mégot, mon tout dernier regard se portera sur tes fesses, où je cache chaque nuit le plus précieux de mon magot. Avant de dormir mes adieux et de m'écrouler comme un vieux poivreau, mon tout dernier regard se portera sur tes yeux, où je cachais chaque nuit les plus brumes de mes propos. Je t'ai toujours aimé.
C'était le titre « Je t'ai toujours aimé », Polyphonic Sal, qui était un groupe belge qui avait travaillé un moment avec Jean-Jacques Burnel, qu'on retrouve d'ailleurs dans ses lignes de basse. « Mon tout dernier regard se portera sur tes fesses », c'est ce qu'il dit dans la chanson. Si vous voulez en voir un peu plus, en savoir un peu plus, vous pouvez évidemment aller sur le site RFI.fr à Musique du Monde et vous aurez toutes les dates de la tournée des Stranglers et les coordonnées du coffret et même peut-être quelques photos. On se retrouve après le flash de RFI dans 3 minutes. On file à Abidjan. Oui, en Côte d'Ivoire.